Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue, c'est l'information économique du jour. Les détails de la réforme de l'assurance chômage. Olivier Dussopt est depuis quelques minutes avec les partenaires sociaux. Le grand principe est qu'il y aura un paramètre qui variera en fonction de la météo de l'emploi. Ce sera la durée d'indemnisation. Quand on est en période rouge, on restera sur 24 mois. Quand on est en période verte, on passera à 18 mois d'indemnisation. Et dans un instant, je vous donne deux informations exclusives de BFM TV sur justement le critère pivot qui fera qu'on passera de la période verte à la période rouge. Le bouclier tarifaire pour les entreprises a été, on va dire, éclairci. Alors j'ai regardé le détail, c'est quand même assez compliqué, mais Bercy affirme que désormais les modalités d'accès sont nettement facilitées. On en dira un mot, parce que c'est toujours assez compliqué de mettre en place ce genre de dispositif pour les entreprises, souvent plus que pour les ménages. La hausse de salaire obtenue par IG Metall au terme des négociations, 8,5% de hausse de salaire sur 2 ans. Ça reste en dessous de l'inflation allemande actuelle. Et puis AXA, par exemple, propose à ses salariés en France 4,2% d'augmentation. Le pic d'inflation est-il atteint aux États-Unis? Certains le pensent. Et Paolo Gentiloni, pour l'Union européenne, espère que ce sera pour la fin 2023 en Europe. Christine Lagarde a été très claire à la BCE. Les hausses de taux directeurs vont se poursuivre durablement, a-t-elle dit. Bonjour Benjamin Coria.
Bonjour.
Bienvenue, mettez le micro un peu plus près de vous. Vous êtes professeur de sciences économie à Paris 13, membre du comité d'animation des économistes atterrés. On peut vous lire dans Le Bien commun, le climat et le marché. Réponse à Jean Tirole aux éditions Les liens qui libèrent. Jean-Marc Daniel, bonjour.
Bonjour.
Professeur à l'ESCP, vous avez publié Redécouvrir les physiocrates pour une écologie libérale, plaidoyer pour une économie intégrant l'impératif écologique chez Odile Jacob. Et vous êtes membre du comité éditorial de Pour l'écho. On va voir la une du numéro de novembre. Peut-on éviter la récession pour interrogation. Il n'y a quasiment plus une institution internationale, Jean-Marc, qui pense qu'on peut éviter la récession aujourd'hui.
Oui, alors c'est assez variable d'ailleurs. Quand on regarde, il commence à y avoir des bruits. Là, il y a un indicateur qui vient d'annoncer que les prix à la production avaient baissé en Allemagne. Et donc, il y a tout un tas de... Il y a, depuis 15 jours, effectivement, tout le monde disait qu'on allait vers la récession. Et puis là, ça fait depuis 48 heures, de nouveau, il y a des gens qui disent, mais pas du tout, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, je crois qu'on est surtout dans le flou, là.
Oui, puis on va éviter de se planter comme sur l'inflation.
Oui.
N'est-ce pas? Bonjour Léonidas Kalogiropoulos.
Bonjour.
PDG de Médiation et Arguments, vice-président d'éthique et délégué général de l'Open Internet Project. Et vous êtes fondateur des Entrepreneurs pour la République, cette place de marché où cohabitent des solutions concrètes d'entrepreneurs, notamment d'ailleurs sur les questions énergétiques. On en a parlé au BFM.
Je vous en donne une, pardon, ça me vient à l'esprit, je n'avais pas prévu de le faire. Une entreprise s'appelle Nénuphar, elle recouvre les bassins de lisier d'une bâche en caoutchouc pour récupérer le méthane et produire de l'énergie. Il y en a 70 000 de bassins comme ça. Vous mettez ce système sur les 70 000 bassins de France, ça crée l'équivalent d'une centrale nucléaire, mais pas en 15 ans, en quelques mois. C'est extraordinaire. J'invite...
Comment elle s'appelle ?
L'entreprise s'appelle Nénuphar. Je l'ai découverte il y a quelques jours sur la plateforme. Et ils ont déjà un premier bassin qui est opérationnel.
Donc c'est opérationnel.
C'est opérationnel, voilà.
Et je crois qu'effectivement, on ferait bien de mettre bout à bout tous ces dispositifs.
Je vous donne une pointe d'optimisme ce matin.
Le méthane,
bien utile.
Le méthane est le pire des gaz à effet de serre. Il y en a beaucoup moins que le CO2.
Ouais,
voilà. À ce sujet, vous vouliez dire. Alors, j'avais pas prévu d'en parler. D'ailleurs, je trouve ça presque révélateur, Benjamin Coria. Dans mon petit programme, j'ai pas mis COP.
Bah oui.
Et vous me dites, mais il faudrait quand même dire un mot de la COP.
Bah oui, il faut quand même dire un mot de la COP parce que, bon, d'abord, on va jamais le répéter assez. On atteint les derniers degrés de l'urgence. Bon. Et en même temps, on a une COP qui est, on va dire, pour le moins extrêmement décevante. Bon, parce que, alors, il faut d'abord donner l'information, même si elle va être répétée sans doute sur toutes les radios. Pratiquement la seule chose sur laquelle cette COP aboutit, c'est cette histoire du fonds pour pertes et dommages.
Alors, donc un fonds dédié aux pays les plus atteints par le réchauffement climatique.
Visant la réparation. Visant la réparation. Bon, alors, sur le principe, c'est une bonne chose, évidemment, qu'un tel fonds soit mis en place. Il avait été demandé depuis 30 ans par les gens des Maldives. Ce qui est très ennuyeux, c'est deux choses. Bon, d'abord que sa dotation, elle est envisagée à autour de 350 millions de dollars. alors qu'on estime que la réparation des dommages au point où on en est de la crise climatique, c'est de l'ordre de 200 à 300 milliards de dollars par an. Donc il y a vraiment un problème d'échelle absolument gigantesque, à supposer même que le fonds finisse par fonctionner. Bon, ça c'est la première chose qu'il faut dire. La deuxième, c'est que sur les vraies questions qui relèvent non pas de la réparation, mais de la prévention, c'est-à-dire en particulier du recours aux hydrocarbures, silence radio. Silence radio, et y compris, c'est pas très encourageant, parce que le pays hôte, l'Égypte, a mis vraiment la pédale tout à fait, j'allais dire douce, a mis la pédale en dessous sur ces sujets-là. Donc moi, je trouve ça très, très ennuyeux, quoi. Je veux dire, je sais plus sur quel ton il faut dire, regardez les indicateurs, regardez ce qui se passe autour de vous, et bougez-vous. Bon, visiblement... les pays...
Déception, quoi.
Extrême déception. Non, et puis ça devient très inquiétant, parce qu'on a de moins en moins de temps. Et c'est pas moi qui dis
ça. Si vous voulez rajouter un mot là-dessus, allez-y.
Non, je voudrais juste rajouter un mot, parce que je trouve que l'on a une difficulté par rapport à ces grandes messes internationales, c'est que nos pays qui sont avancés ont été... capable, me semble-t-il, d'atteindre quasiment l'asymptote sur les progrès qu'on est capable de faire dans l'état actuel des technologies. Et j'ai le sentiment que nous sommes les premiers à être sous la pression pour faire des progrès, alors que là où il faut faire des progrès, c'est là où il y a on est sur cette même planète. Enfin, je suis pas totalement certain que lorsqu'on fait des pouillèmes de progrès en mettant toutes nos industries sous contrainte, ça a beaucoup d'impact sur la planète, alors que l'Inde, la Chine et à certains un nombre d'autres pays continuent à produire. Alors, me semble que là où on devrait véritablement avoir un travail de fond sur ces grandes messes internationales, c'est fournir nos moyens de production plus sobres énergétiquement à ces pays. Et ça, me semble-t-il, c'est un nouveau type de coopération qui est loin d'être celui que l'on recherche dans ces COP.
Parce que la plupart des économistes me feraient comme réponse, il n'a pas été question du prix du carbone et c'est la seule et unique solution pour réussir à réguler tout ça.
C'est l'un des points. Mais juste, on va pas y passer notre vie, parce que malheureusement, c'est un peu catastrophique ce qu'on aurait à se dire. Oui, bien sûr, vous avez raison. Hein, c'est-à-dire que des grands pays pollueurs, la Chine, etc., devraient faire davantage. Et si elles font pas davantage, en tout cas, peut-être pas pour la Chine, mais pour beaucoup d'autres, on devrait pouvoir les aider beaucoup plus, notamment par des transferts de technologies, ça veut dire des technologies non polluantes, ça veut dire déjà avoir une autre politique sur les brevets concernant ces technologies, parce que sinon, ça sert à rien de dire qu'on va les aider. Mais en même temps, quand même, constatons que avec la guerre en Ukraine, ou sous le prétexte de la guerre en Ukraine, on est revenu en arrière et on n'arrête pas de nous dire c'est formidable, on a rempli nos réserves de gaz jusqu'aux oreilles, etc. Donc je veux dire, soyons plus modérés sur les efforts que nous faisons.
Il est vrai que le contexte que l'on vit a donné un petit coup dans l'aile à la transition énergétique.
Bah, oui.
L'assurance chômage, Jean-Marc.
Non, je voudrais quand même réagir. Sur ce qui vient d'être dit très rapidement. La première chose, c'est que effectivement, on fait le procès de la Chine et tout ça, mais la quantité de charbon n'a jamais produit dans le monde, n'a jamais été aussi élevé. Simplement, les pays occidentaux, ils se sont débarrassés des industries polluantes, ils les ont envoyées là-bas et ils disent maintenant, mais vous savez, vous polluez. Et je pense que si les pays occidentaux voulaient être cohérents, il faudrait dire, non seulement on ne produit plus de charbon, mais on ne consomme plus de charbon.
Bien sûr.
Or, je rappelle quand même que dans ce pays, on subventionne la consommation de pétrole au travers des ristournes sur l'essence.
Oui,
on vient de donner une prime de 200 euros pour les gens qui se chauffent au fioul. On vient de réactiver la centrale de charbon de Saint-Avold pour pouvoir avoir de l'électricité. Et donc, on est dans une situation d'hypocrisie totale. Et donc, effectivement, ces COP sont, je rejoins pour une fois Benjamin Coria, ces COP sont très inquiétantes parce que c'est le bal des Tartuffes. Hein.
Ouais.
Et, la Commission européenne est intervenue en disant, vous savez, nous, on va faire un effort et on va baisser notre consommation, non pas de 55%, mais de 57%. et on se fout de la gueule du monde. Et donc je pense que effectivement la COP c'est un échec parce que les gens n'ont pas conscience de ce qui se passe, et je pense que l'enjeu c'est de faire en sorte que ce soit plus au niveau des grands messes où effectivement tout le monde arrive en avion, et mais que ce soit des décisions individuelles et très concrètes. Donc la taxe carbone,
les entrepreneurs pour la République.
Voilà.
Mais vous donnez une très bonne idée pour internationaliser les entrepreneurs pour la République. Ce que je voudrais juste vous dire, et je suis d'accord avec ce que vous soulignez, Jean-Marc Daniel, mais il me semble que c'est une question de méthode. Il faut savoir ce qu'il y a dans l'agenda d'une COP. Je crains malheureusement que ce qu'il y a dans l'agenda d'une COP, ce soit que des objectifs tellement macro que vous en arrivez à dire que c'est l'état de la tartufferie. Je pense qu'il faudrait qu'on ait une COP très microéconomique où on est à la recherche de solutions. Oui. On a également ces sujets de transfert de technologie. Et malheureusement, je crains qu'elle soit mal calibrée pour atteindre son objectif.
Pour terminer, Jean-Marc.
Non, mais il n'y a pas besoin des COP, en fait. Je pense qu'effectivement, le grand enjeu, c'est tout le monde est concerné. Ce discours qui consiste à dire, ah oui, mais c'est machin qui pollue plus que l'autre.
Non.
Tout le monde est touché, tout le monde est concerné. Et donc, tout le monde doit faire des efforts. Et je pense, a conscience de ce qui se passe. Donc, il faut vraiment proposer des choses très concrètes et arrêter tous ces grandes... Oui, ce bal des tartuffes qui ne sert à rien.
Juste un tout dernier mot. On n'a pas besoin des COP, etc. Non, je ne suis pas d'accord. Il nous faut
On a été d'accord 30 secondes.
Il nous faut des objectifs partagés. Des horizons partagés. Après, je suis parfaitement d'accord avec ça. Après, c'est l'initiative décentralisée et la variété.
Et la
microéconomie et la micro-initiative citoyenne.
La macro.
Et les micro-ONG.
Je l'ai jamais rencontré.
Et tout ce qu'on veut. Mais il faut aussi des objectifs partagés, sinon, il ne se passera rien.
Ah, mais il est certain que si on ne se parle pas du tout.
Mais évidemment.
Ce sera compliqué.
C'est tous les ans.
Ouais, mais bien sûr, d'accord. J'avance sur l'assurance chômage.
L'enjeu, c'est le nom du prochain.
Je me tourne vers Leonidas Kalogeropoulos. Voici ce qu'il se dit en ce moment entre Olivier Dussopt et les partenaires sociaux. La variable d'ajustement, ce sera uniquement la durée d'indemnisation. Pas le montant de l'indemnisation, ni les conditions d'accès à l'assurance chômage. Cette variation de la durée d'indemnisation, elle sera réduite d'un quart en période verte.
Oui.
Et elle sera donc de 24 mois la durée normale en période rouge. Et les informations que nous vous apportons depuis 9h, information BFM TV, il y aura donc un changement de période entre vert et rouge à partir du moment où on est sous les 9% de chômage, ou bien si le chômage baisse 3 trimestres consécutifs. On parle du taux publié par l'INSEE, pas des chiffres de Pôle emploi. Voilà donc le cœur de cette réforme de l'assurance chômage, Leonidas Kalogeropoulos. Comment vous la percevez?
Positivement.
Est-ce que c'est un électrochoc?
Non, positivement. Vraiment, je pense que c'est très important de donner un signal à propos de signaux que l'on donne à la société, c'est que chacun doit être au travail. Voilà. Chacun doit être au travail. Maintenant, il y a les accidents, l'économie, la vie qui font qu'on perd son emploi, qu'il y a une rotation. Mais la rotation doit devenir beaucoup plus rapide. Alors, je note que les niveaux d'indemnisation n'ont pas bougé. Donc, ça reste parmi les niveaux les plus élevés qui puissent exister dans le monde. Hein.
Enfin, 18 mois, ça reste un niveau élevé. Non, 18 mois, c'est pour quelqu'un qui a tous ses droits.
Hein. Je parlais du niveau d'indemnisation en termes d'accompagnement financier. Ensuite, il y a la durée. Il y a les deux paramètres. Sur le paramètre du versement de l'indemnité chômage, ça n'a pas bougé. Donc, on a juste bougé le curseur de la durée d'indemnisation. Et cette durée, effectivement, elle est raccourcie quand la capacité de créer des emplois est bien présente. Et quand on voit les centaines de milliers d'emplois qui sont sur le marché et qui ne sont pas pourvus, il y a une urgence, il y a quelque chose qui est mal paramétré. Je voudrais juste insister sur un point, parce que j'ai entendu les débats qui ont eu lieu sur la question de l'âge des demandeurs d'emploi, et certains se sont un peu émus du fait qu'on avait la même mesure pour les plus de 55 ans.
Eux, c'est 36 mois, et ça tombera donc
à 27.
En période de beau temps à 27 mois.
Bon, à 27 mois, ce qui est quand même, on est en train de parler de 2 ans, de plus de 2 ans d'indemnisation. Il y avait effectivement une sorte de pratique consistant à dire, vous avez 36 mois, on va se mettre d'accord, vous allez partir, et effectivement une sorte de pré-retraite
un peu déguisée
et un peu consensuelle. Il faut que ça s'arrête. Cette pratique-là est une mauvaise pratique.
Bah, ce sera alors, pas 36 mois, mais 27.
Non, mais c'est une mauvaise pratique du côté des entreprises,
mais
c'est une mauvaise pratique collective. Que on travaille à ce que cette mauvaise... Et c'est le début du travail. C'est le début. nous devons faire davantage, et nous devons faire davantage effectivement pour l'emploi des seniors dans notre pays.
Cette réforme ne concernera que les nouveaux chômeurs à compter du mois de février. Le texte de loi qui a été validé par le Parlement, c'était jeudi, permet donc au gouvernement d'agir par décret qui sera publié devant le Conseil d'État. Et ensuite arrivera la phase 2024
par décret,
sur la gouvernance.
Parce qu'il faut pouvoir bouger en fonction des variations de l'activité et de variations du taux de chômage. Donc puisqu'il faut pouvoir bouger rapidement, il n'y a que la voie réglementaire.
Benjamin Coria, c'est sans doute à compter du mois de février, pour les gens qui ont perdu leur contrat à compter du mois de février, qu'on va se retrouver en période verte et que là, on va donc appliquer ces nouvelles règles. Est-ce qu'on est dans le vrai ? Est-ce que ça a du sens ?
Non, pour moi, cette réforme, elle pose deux problèmes.
Allez-y.
Très sérieux d'ailleurs, très sérieux tous les deux. Le premier, c'est le glissement d'une chose qui était gérée par les partenaires sociaux, qui était un compromis entre partenaires et qui pouvait bouger, qui n'a cessé de bouger, hein, par la négociation entre partenaires.
Le paritarisme, oui.
Oui, voilà, à un glissement où, dans lequel l'État a décidé de reprendre la main.
C'est vrai.
Et fait ce qu'il veut.
C'est vrai.
Et fait ce qu'il veut. Alors, rouge, vert, 9%, 7%, 5%, 27 mois, 34 mois, etc. C'est un scandale. C'est un scandale absolu, je veux dire. Si l'État social, ça veut dire que l'État prend la main et décide, l'État n'est plus garant de rien. L'État devient... parce que c'était ça.
Il est garant de la dette, bon.
Mais c'était ça. C'était ça, l'ancienne formule. On avait des compromis sociaux,
oui,
passés par les partenaires, et l'État était le garant, et à ce titre, il avait voix au chapitre, ce qui est absolument normal. Bon, il a dépossédé les partenaires sociaux, hein, comme il l'a fait sur les retraites, comme il est en train de le faire sur les retraites, pour imposer ses vues. Donc là, il y a un vrai problème de principe.
Alors ça, c'est la gouvernance.
On ne peut pas à la fois dire il faut plus de concertation, il faut plus d'engagement des citoyens, des partenaires,
etc. Mais c'est très vrai,
etc.
Ce que vous dites, Benjamin Coria. On a retiré le mot négociation au profit du mot concertation.
Mais oui, mais c'est du baratin. C'est du baratin.
Sur la gouvernance, je vous ai entendu.
Comme vous l'avez dit, il va gouverner par décret. Dire, comme dans
mais
une république bananière.
Mais sur le fond, Benjamin Coriale, bon.
Sur le fond et sur la mesure, d'abord, il y a un truc entre la forme et le fond, c'est que c'est lui qui décide du moment dans lequel on va modifier, hein, à travers, parce que c'est lui qui fixe
C'est un choix politique. 9% ou alors 3 trimestres consécutifs.
Alors, après, le deuxième problème de fond qui est là derrière, c'est toujours pareil, quoi, c'est cette idée que les gens sont chômeurs parce qu'ils le décident, parce qu'ils le veulent bien, et que donc on va les punir. Voilà. Alors que, mais oui, bien entendu, on va les punir parce qu'on va diminuer la durée d'indemnisation, parce que c'est eux qui décident de l'emploi. Alors que, toutes les études un peu sérieuses faites sur ce sujet, je dis bien sérieuses, pas conduites dans une perspective idéologique, elles disent qu'il y a un grand problème d'appariement entre l'offre et la demande d'emploi, et donc ce problème, il existe. Je ne vais pas vous dire qu'il n'existe pas, bien sûr qu'il existe. Bien. Mais ce problème d'appariement, il a trois causes qui sont, des défauts de formation, ça veut dire qu'il n'y a pas les qualifications nécessaires. Deux, des problèmes à la mobilité, en particulier dans une France dans laquelle on a plein de propriétaires, c'est un sujet dont on pourrait discuter. Comment on gère ces questions de mobilité, et comment on fait accepter que des gens du jour au lendemain aillent travailler 350 km plus loin dans un je sais pas quoi, bon voilà.
Et trois donc
un problème d'attractivité des emplois, je veux dire, on l'a bien vu avec le post-Covid et la grande démission, je dis pas que c'est général à la France, hein, mais il y a une série d'emplois qu'on n'arrivera jamais à pourvoir. Bien.
Je dois marquer une pause, Benjamin Coria.
Ok.
Mais
donc,
oui. Voilà. Ah ben voilà, j'ai compris à la fois sur la gouvernance. La question de la gouvernance, elle sera plus ou moins tranchée début 2024. Ça va pas être l'actualité immédiate. Il est certain que les éléments que vous avez cités font partie du sujet. Dire qu'avec une réforme de l'assurance chômage, le plein emploi est assuré, évidemment, ça n'est qu'un élément du puzzle. Vous réagirez dans un instant, Jean-Marc Daniel, donc sur ces informations. Sous les 9% de chômage, ou alors si on a trois trimestres consécutifs de baisse du taux de chômage, nous passerons donc en période verte, ce qui sera le cas début février, très probablement lorsque la réforme sera appliquée. On se retrouve dans un instant.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Benjamin Coria, professeur de Sciences Éco à Paris 13, membre du comité d'animation des économistes atterrés. Il a publié Le bien commun, le climat et le marché, réponse à Jean Tirole aux éditions Les liens qui libèrent. Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP, l'auteur de Redécouvrir les physiocrates pour une écologie libérale, plaidoyer pour une économie intégrant l'impératif écologique chez Odile Jacob et Léonidas, et également membre du comité éditorial de Pour l'écho, dont la une du mois de novembre s'affiche à l'écran. Peut-on éviter la récession? Léonidas Kalogiropoulos, PDG de Médiation et Arguments, vice-président d'éthique qui a fondé les Entrepreneurs pour la République. J'ai un auditeur qui me dit Jean-Marc Daniel, président.
Ouais, très bien. Mais vite alors. Vite.
Et il y en a un autre qui s'appelle Vincent. Les pays qui ont le moins de chômage sont ceux qui indemnisent le moins longtemps. Faudrait vérifier. Je ne suis pas capable, là, en direct, de vous confirmer totalement. La réforme telle qu'elle est en train de se dessiner, c'est vrai, comme le dit Benjamin Coria, totalement pilotée et décidée d'en haut par le gouvernement, Jean-Marc Daniel.
Oui, c'est...
Est-ce que ça a du sens de baisser la durée d'indemnisation pour essayer d'inciter à un retour à l'emploi plus rapide? C'est ça le but.
Oui, juste sur la forme, effectivement, on assiste à un processus d'étatisation de tout ce qui avait été mis en place au titre du paritarisme. Donc la sécurité sociale, ça a commencé à 67 et en 95, on est arrivé à cette absurdité du plan Juppé consistant à déterminer de quel droit on avait d'être malade. L'ONDAM, on a le droit d'être malade. Même en Union soviétique, on n'était pas dans ce degré de ridicule.
L'ONDAM, c'est l'objectif de dépense
d'assurance maladie.
On l'a régulièrement dépassé, l'ONDAM.
Oui.
Simplement, la règle, c'est que si on dépasse l'ONDAM, on est obligé de se remettre d'accord sur un nouvel ONDAM.
Bon. Et là, maintenant, ça va être sur le chômage. On va avoir un objectif de dépense d'assurance chômage. Et puis, on va dire aux gens, bon, c'est fini, là, vous savez, on a changé de période. Je pense qu'effectivement, l'étatisation est dans le pipe depuis un moment. D'ailleurs, à la REF, vous vous souvenez, le sujet avait été abordé. À la rentrée du MEDEF, le sujet avait été abordé. Et Geoffroy Roux-de-Bézieux avait dit clairement au gouvernement, mais écoutez, allez-y rapidement maintenant. À partir du moment où tout ça n'est qu'illusion, puisque vous avez décidé de prendre la main, soyez cohérents. Prenez la main.
Mais ça, sur la gouvernance.
Arrêtez de nous mentir.
Bon, mais maintenant, sur le fait, passer de 24 à 18 mois pour la plupart des gens, c'est jusqu'à 53 ans, les 24 mois. Si on tombe à 18, est-ce que tout d'un coup, c'est une mesure antisociale qui n'aura aucun effet?
Alors, si vous voulez, sur le fond, moi je pense que, alors on en a parlé pendant la matinale, tout ça, mais réguler la durée, c'est évident que ça a un impact. En revanche, réguler la durée de façon totalement aléatoire, incompréhensible, avec une usine à gaz, on est à tel taux, puis c'est l'INSEE qui décide, et puis ceci et cela, je pense qu'il faut revenir à des travaux simples. On a parlé des économistes, moi je me souviens du discours de Christopher Pissarides quand il a eu le prix Nobel d'économie. C'est un des rares moments où il y a un prix Nobel qui a fait des recommandations. Il a dit, dans tous les pays de l'OCDE, il devrait y avoir une durée d'indemnisation du chômage entre 12 et 16 mois, avec une moyenne à 14 mois, ça dépend d'un pays à l'autre. Mais il disait bien, là où je rejoins d'ailleurs ce que disait Benjamin, on n'est pas chômeur volontairement. Tout le monde a des anecdotes de quelqu'un qui est au chômage, en tout ça, qui profite du système. Il y a toujours des gens qui profitent de tous les systèmes, quels qu'ils soient. Tout le monde sait qu'il y a plus de cartes vitales que de citoyens. Tout le monde sait ceci, cela, la fraude est partout. On ne peut pas construire en raisonnement exclusivement sur la base des escrocs et des fraudeurs. Et donc les gens qui sont au chômage sont des gens qui sont effectivement dans une situation d'amoindrissement économique et social. Il faut leur donner des règles du jeu claires, ne pas baisser leurs revenus.
Pas question de baisser
leurs revenus. Oui, absolument. Et même, je pense qu'on ne va pas assez. Je disais tout à l'heure dans la matinale, au bout d'un an, d'après l'OCDE, un chômeur touche 64% de son revenu antérieur. En Suisse, où on est au plein emploi, il est à 72%. Au Danemark, l'on met souvent en exemple, la mobilisation et tout ça, il est à 82%. Donc je crois qu'on ne construira pas la croissance économique de ce pays en s'acharnant sur les chômeurs. La seule chose...
Et 18 mois, c'est pas complètement scandaleux.
Non, mais 18 mois, mais c'est justement, c'est pas ça que je dis. C'est pas 18 mois, je dis, c'est 18 mois, point barre. C'est pas 18 mois, et 12 mois, et 15 mois, et 16 mois, et 24 mois. Je dis, dites 18 mois, dites 16 mois, dites 14 mois, mais une bonne fois pour toutes. Je conclue simplement mon exposé en disant 64 milliards d'euros de dettes.
Et donc, à l'UNEDIC.
Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et donc moi, la vraie réforme, ça ne surprendra pas les auditeurs, même ceux qui veulent me porter à la présidence de la République, je pense que la mutation du travail exige une forme de souplesse et que seuls des systèmes d'assurance privés peuvent garantir cette forme de souplesse.
Oui, réagissez,
Léonidas.
Juste en un mot, le fait de dire que dans un système donné, les gens s'adaptent à ce système et s'habituent à l'idée qu'ils vont avoir un an, six mois, un an devant eux pour essayer de commencer à chercher un emploi, ce n'est pas des fraudeurs. Et c'est ça qui me semble être nécessaire de remettre sous tension, c'est que la vision commune, la vision normale du rapport à l'emploi, soit que la place normale, c'est pas de passer 6 mois à trouver ce que l'on trouve le mieux. On prend un emploi et on continue à chercher, on en trouve un meilleur, mais on est dans l'emploi. Et de se dire, je vais rester 1 an et demi hors de l'emploi, d'abord c'est mauvais pour le demandeur d'emploi, et c'est globalement le système tel qu'il s'est petit à petit installé, je trouve que c'est pas mal qu'on l'en mette sous tension. Ça ne veut pas dire pour autant que l'on désignerait les chômeurs comme des fraudeurs. Ça n'a jamais été mon vocabulaire.
Mais je veux réagir 30 secondes à ça. Encore une fois, il faut une durée claire, affichée. Et quand on dit, les gens vivent, ils se disent, tiens, j'ai 6 mois. Ils se disent pas, j'ai 6 mois devant moi. C'est pas vrai. Ils se disent, j'ai 6 mois devant moi pour trouver un emploi. Ils se disent pas, j'ai 6 mois devant moi pour aller aux Bahamas et faire de la planche à voile. Je pense que les gens, la plupart des gens qui sont au chômage, d'emblée, ils vont voir Pôle emploi. On leur fait des propositions de stage qui sont une fois sur deux plus ou moins intéressants et plus ou moins en conformité de ce qu'ils peuvent attendre.
Attendez, quand on a 700 000 emplois non pourvus, c'est qu'il y a un petit souci quand même. On est d'accord
là-dessus? Oui, il y a un problème d'appariement.
Il y a un problème de
c'est
formation.
Très étudié,
il y a un problème.
Ça. Et ça se ramène pas au fait que les gens cherchent pas du travail ou veulent pas travailler. Il y a des problèmes beaucoup plus complexes que en disant formation, mobilité, attractivité, il y a de quoi faire. Hein,
la complexité n'empêche pas de commencer.
Mais, voilà. J'ai déjà souvent évoqué ce sujet avec Stéphane Carcillo, qui est quand même l'un des économistes très au courant. Il y a pas mal de travaux qui arrivent à la conclusion qu'il y a une accélération de la recherche d'emploi dans les 6 derniers mois. Donc la durée d'indemnisation a bien quand même un...
Mais
pèse quand même
pas.
Sur les...
On ne conteste pas le fait qu'il faut qu'il y ait une durée d'indemnisation. Ce que je conteste...
C'est
que...
la variabilité.
La variabilité, et donc introduire dans le système une situation, un paramètre, qui est un paramètre qui va être incompréhensible, et dont le fondement essentiellement, c'est de dire, mais vous savez, toute une partie des chômeurs, ils sont là parce que ils profitent ça pour prendre des congés. Je dis, ça c'est malsain.
Moi, je vous donne...
Et donc je dis, la durée, c'est un enjeu, mais qu'elle soit fixe.
Je parie qu'en fait, la nouvelle durée ne bougera plus jamais et ce sera 18.
Ah ben ça, voilà. On verra.
C'est comme ça que ça va se passer.
On verra. Mais je suis un peu...
Parce que là, les 9%, c'est élevé quand même, hein, les 9%.
Non mais, ça n'arrête pas de bouger, les conditions de l'indemnisation au chômage. Ça n'arrête pas de bouger depuis que... voilà, donc il n'y a aucune raison pour que ça s'arrête là. Aucune. Je trouve que votre pari, c'est un pari vraiment risqué.
Ah, vous dites qu'on va peut-être aller un jour à 14 mois. Je n'en sais rien.
Mais bien sûr, à partir du moment où on rentre là-dedans, il n'y a plus de fin.
Pour conclure, Geoffroy de Roux-de-Bézieux avait raison au mois de septembre. Il faut arrêter de tergiverser, de mener les gens en bateau, tout ça. Gouverner, c'est prendre des décisions aussi.
Voilà, il y avait aussi une petite complexité législative pour arriver à ce décret devant le Conseil d'État. Un mot rapide avec vous uniquement, Léonidas Kalogiropoulos. Le message de Bercy depuis 48 heures est de dire ça y est, les boucliers tarifaires mis en place pour les ETI, pour les PME, tout ça maintenant c'est super facile, super simple, il n'y a plus de problème. Il est vrai que la première mouture n'a rencontré aucun succès tellement c'était compliqué.
C'était
personne
compliqué,
ne demandait les aides.
Le BE, tout ça c'était très compliqué. Maintenant les critères.
On nous dit que ça va mieux, que c'est bon et que c'est opérationnel dès ce matin.
Non, mais la plateforme a été modifiée. Les critères sont assez clairs. Il faut avoir 3% de son chiffre d'affaires en facture énergétique et il faut qu'elle ait augmenté plus de 50% par rapport à l'année dernière. Le problème, malheureusement, c'est qu'il y a des situations et des industries qui sont confrontées à une explosion de leur facture énergétique et parce qu'un certain nombre de paramètres dans leur activité font qu'ils ne rentrent pas dans les critères, ils n'en bénéficient pas. Et ils sont sans rien. Et je pense que la capacité que le gouvernement a eue à adapter le système parce que ça ne fonctionnait pas et qu'il en a tiré les conséquences assez rapidement va l'amener très certainement à ouvrir de nouvelles conditions d'éligibilité. Parce qu'il y a un nombre considérable d'industriels, on le voit à Ethique, on le voit à Origine France Garantie, on le voit à l'Alliance Française de l'Industrie, enfin tous les mouvements patronaux qui sont au contact de l'industrie constate qu'il y a des acteurs qui chiffrent à l'appui, démontrent qu'ils sont en train d'aller tout droit à la catastrophe. Donc je pense que là...
Mais ils ne sont pas éligibles aux critères actuels.
Et ils ne sont pas éligibles aux critères actuels. Donc il y a très nécessairement des paramètres qu'il va falloir bouger. Et je pense que c'est un vrai cri d'alarme, parce que ceux qui sont au bord du précipice... on a mis tellement d'argent pendant le Covid pour éviter que les industries et les entreprises soient dans le précipice, que là, il va falloir avoir un degré de réactivité assez fort. C'est bien qu'on ait simplifié pour toutes celles qui sont éligibles. Pour toutes celles qui ne sont pas, il va falloir regarder la granularité.
Cette étude était assez intéressante la semaine dernière, publiée par l'Institut des politiques publiques et le CEPROMAP, qui est le laboratoire de recherche de l'École d'économie de Paris, Benjamin Coria. Le bouclier tarifaire, dit cette étude, a été le meilleur choix économique possible. Le principe de limiter la hausse des prix plutôt que de subventionner à gauche ou à droite les agents économiques, qui a permis de contenir l'inflation et d'éviter l'effet de second tour sur les salaires. Donc, cette étude saluait la politique menée par Bruno Le Maire. Est-ce que vous pensez qu'on a fait le bon choix ? Contrairement à d'autres pays qui ont soutenu différemment leur économie, notamment en subventionnant les acteurs.
Non, non, moi je pense que c'était plutôt un bon choix, oui, c'est plutôt un bon choix. J'ai toujours considéré que les options qui avaient été faites étaient les bonnes. Alors, maintenant c'est extrêmement coûteux, hein, ça revient très cher. Bon, alors la question qui se pose, c'est était-il possible. Mais ça, c'est vraiment des questions de cuisine, si je peux dire. Était-il possible de rester dans le principe d'un bouclier tarifaire ?
Mais en ciblant.
Voilà, bah oui. En ciblant et en différenciant.
On va essayer de faire un petit peu.
C'est ça qui aurait été, on va dire, le plus souhaitable. Parce que c'est vrai qu'il y a des tas de gens qui ont bénéficié de ce bouclier. Pour l'inflation, c'est bon. Il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Mais pour les dépenses publiques, ça pouvait se discuter.
Il fallait un truc simple, très efficace, très vite.
Oui.
Et on était sûr qu'en ratissant à 100%...
Non, mais c'est pour ça que je ne dis pas oui, il fallait faire une usine à gaz, c'est ça qui aurait été bien. Mon interrogation, c'est comment on aurait pu tempérer le principe du bouclier fiscal avec de la différenciation en fonction des revenus et des besoins. Mais je ne suis pas surpris que cette étude du CEPREMAP conclue que ça a été une bonne mesure.
Jean-Marc,
je
ne suis pas
surpris. Rapport à l'inflation.
Bien sûr.
Moi, je pense
On a arrosé la demande.
Voilà, je pense que c'était une mauvaise disposition, des mauvaises dispositions, pour trois raisons. La première raison, c'est qu'effectivement, on crée, comme disait Jacques Ruet, de faux droits. Si on ne donne pas la vérité des prix, on crée de faux droits.
Et donc,
la conséquence de ça, c'est qu'on a un déficit de notre balance des paiements courants qui s'est creusé dans des proportions abyssales. Non seulement dans ton déficit public, hein, le Sénat a chiffré à 170 milliards d'euros le coût de tout ça.
Sur trois ans,
et 170 milliards d'euros. Et sur notre déficit de balance des paiements courants, le déficit commercial dépasse les 150 milliards, le paiement courant 70 milliards, 80 milliards. Donc, on est dans une situation, je rappelle, pire que 82-83, et au lieu de faire de la rigueur, au lieu d'appeler au civisme, on subventionne le creusement de ce déficit. La deuxième erreur, je pense que dans le ciblage, il aurait fallu davantage préserver les entreprises et moins les ménages. Je rappelle que là aussi, au moment de 1973-74 du choc pétrolier, on a commencé par préserver les ménages, et puis quand Raymond Barre est arrivé, il a dit l'enjeu c'est de préserver l'économie. Et donc pour préserver l'économie, il faut véritablement préserver les entreprises. Et c'était d'autant plus courageux que l'équipe en question s'apprêtait à aller devant les électeurs en 81 avec le résultat qu'on a vu. Alors que là, même l'équipe en question, le président en sortant, ne pourra pas se représenter. Donc, il aurait pu faire preuve de courage et de bon sens économique. Et la troisième raison pour laquelle je pense que c'est une erreur, c'est parce que effectivement, on se met en porte-à-faux vis-à-vis de nos partenaires européens. Si on arrive à faire ce que j'ai décrit dans le premier point, c'est parce qu'on est dans la zone euro et les critiques n'arrêtent pas de pleuvoir sur notre politique économique et sur singulièrement cette subvention qui a été accordée aux ménages et au maintien artificiel du pouvoir d'achat par ces dispositifs. Donc je pense que c'est une mesure qui était triplement négative.
Je voudrais peut-être...
Oui, allez-y, Léonidas.
Vraiment, une demi-seconde, parce que je
c'est
pense
vrai qu'on
que...
a créé des... Enfin, on a quasiment fait du pouvoir d'achat un acquis social, d'une certaine manière.
Alors, c'est exact, et pardon, parce
mais
que...
Mais vous réagirez,
par rapport à la réaction de Benjamin Coria qui disait, bon, comme si c'était pas bien de soutenir les ménages, c'est pas ça, c'est que quand on soutient les entreprises... Parce que je pense que vous avez un tout petit peu tiqué sur le propos de Jean-Marc Daniel
et que je rejoins. Je confirme.
Lorsque l'on soutient les entreprises, on évite des faillites, on évite du chômage et c'est indirectement du soutien aussi aux ménages qui restent dans l'emploi. Nous craignons que la situation face à l'explosion des prix de l'énergie conduisent à des faillites en cascade. Si on a des faillites en cascade, l'objectif, et parce que c'est tout l'objectif aujourd'hui de la politique économique du gouvernement, et c'est un objectif très louable, qui est de tendre vers le plein emploi, cet objectif-là ne sera pas atteint. Et c'est toute sa cohérence. C'est bien d'arriver au plein emploi. Et vraiment, je salue cet objectif-là comme étant un objectif de d'équilibre social dans sa globalité, mais ça passe par le soutien aux entreprises. Et là, effectivement, je rejoins Jean-Marc Daniel, je pense qu'il y a un effort supplémentaire à faire.
Il est certain que les Français ne font pas les mêmes choix que les Allemands dans ce domaine. Pour conclure là-dessus, est-ce qu'on a trop appuyé sur la demande ? Parce qu'aller soutenir la demande pour freiner l'inflation, c'est un peu antinomique, Benjamin Cornu.
Oui, absolument.
Mais
absolument.
C'est vrai que c'est ce qu'on a fait.
Non, mais moi, je ne pense pas du tout que c'est un dispositif parfait, bien. Et donc, les inconvénients qui ont été mentionnés, sauf celui de dire on a introduit une fiction sur les prix, il y a des moments dans lesquels il vaut mieux avoir une fiction sur les prix, parce que si on les laisse faire, on va à la catastrophe, à condition que ça soit transitoire, hein, à condition que ça soit transitoire. Bon, non, moi le regret que j'ai, c'est mais c'est un regret mesuré, parce que je veux rester réaliste, si je peux dire, c'est que c'était quand même une occasion. Puisque l'explosion, elle portait sur les prix de l'énergie et puis sur l'alimentation, c'était quand même une occasion de peser pour une modification de l'offre, hein, c'est-à-dire combiner des mesures de court terme, hein, de protection, et des mesures de plus long terme. Ça veut dire qu'on aurait pu favoriser dans le bouclier, précisément, certains types de production.
Ah oui, vous voyez ce que vous voulez dire.
Et voilà, et commencer...
On a favorisé les énergies fossiles.
Voilà, on a favorisé les énergies fossiles, alors qu'on aurait pu, et pareil pour une partie de l'alimentation, on aurait pu favoriser... l'alimentation bio, mais un type d'alimentation qui permettait de préserver l'avenir. Bon, mais en même temps, je suis très conscient que ça aurait été très compliqué à faire, surtout dans le temps qui était imparti, mais ça manquait de vision stratégique.
J'entends.
Ça manquait de vision stratégique.
Mais je pense que vraiment, je crois que lorsque nous faisons comme commentaire, c'est pas une critique du gouvernement. On est en train de chercher ensemble un chemin de crête pas très simple à trouver. Sur ce point, je voudrais juste rappeler aussi qu'il y a un élément qui est très politique, c'est le fonctionnement du marché de l'énergie en Europe, qui est quand même quelque chose d'aberrant. Et chaque jour qui passe nous fait subir les effets d'un marché qui est tellement délirant dans son fonctionnement que là je pense qu'il faut que collectivement on arrive à aider le gouvernement à s'en sortir et toute l'Europe d'ailleurs, parce que c'est un marché dont les effets ravageurs dans des proportions mais considérables se font sentir quotidiennement, et aller subventionner la réparation quotidienne du dysfonctionnement d'un marché, ça je pense qu'on sera tous ensemble d'accord pour dire que c'est pas la bonne méthode.
On est à l'articulation entre le conjoncturel et le structurel.
Jean-Marc Daniel, là-dessus, mais vraiment, on ne va pas redécortiquer le marché de l'énergie.
On met beaucoup en avant le marché de l'énergie, l'Europe et tout ça, mais ce n'est pas l'Europe et le marché de l'énergie qui a arrêté 26 réacteurs nucléaires.
Bien sûr.
S'il n'y a plus d'énergie, s'il n'y a pas d'électricité, c'est parce que ça fait 10 ans que l'État se mêle de donner des instructions contradictoires à la direction d'EDF. Pas seulement.
EDF a été totalement incapable de fabriquer ces réacteurs de nouvelle génération. Il a engouffré un argent astronomique. Alors qu'on dise c'est des impulsions contradictoires, moi je veux bien, parce que ça fait plaisir au pro-nucléaire, mais la vérité c'est que ce qui a été préparé comme nouvelle génération nucléaire, c'est un fiasco total, et sur le plan technique et sur le plan des coûts. Alors il faut le dire aussi.
Non mais je parle pas du futur, je parle des réacteurs.
C'est pas vrai qu'on a donné qu'une impulsion négative. On a donné carte blanche pour partir vers les nouvelles technologies de réacteurs, et c'est une catastrophe. Voilà.
Non, mais l'enjeu, c'est pas les nouvelles technologies, c'est l'entretien du parc existant. Et quand on a demandé à EDF de verser des dividendes pour essayer de rentrer dans le clou des critères du pacte de stabilité et de croissance, parce qu'on est incapable de gérer correctement les finances publiques, ça s'est retrouvé dans la maintenance et dans l'activité d'EDF. Donc c'est bien, non pas les choix des pro-nucléaires d'EDF, mais c'est bien l'incurie et l'incompétence de la tutelle étatique sur le producteur d'énergie.
On parle toujours de l'inflation, et j'ai un autre élément que je voulais vous faire réagir, Jean-Marc Daniel. C'est l'histoire des dépenses contraintes.
Oui.
C'est une étude de du comparateur Les Furets CSA qui a été publié en fin de semaine dernière. C'est une hausse des dépenses contraintes sur un an de 36 euros en moyenne sur un an, plus 3,6%. On arrive à une moyenne par mois de 1095 euros, ce qui engloutit environ 35% du budget mensuel en moyenne. Mais dans les cas les plus extrêmes, ça va engloutir jusqu'à 80% du budget mensuel. Et alors, cette information vous a pas du tout ému?
Non, pas du tout, parce que je pense que l'idée, la notion de dépenses contraintes est une idée qui est scientifiquement totalement irrationnelle et totalement incapable, impossible à mesurer. Ça me fait toujours penser à, vous savez, lorsque Benjamin Disraeli a dit cette formule célèbre, il y a trois façons de mentir, il y a le mensonge, le fifé mensonge et la statistique. Et pourquoi il disait ça? Parce qu'il avait en face de lui le directeur de la statistique, et il lui dit, vous faites quoi dans la vie? Et le mec lui dit, je fais le portrait de l'anglais moyen. Alors, bon, très bien. Et alors, et c'est qui l'anglais moyen? Et l'autre lui répond, mais il n'existe pas. Et donc, Disraeli dit, le contribuable vous paye pour faire le portrait de quelqu'un qui n'existe pas. Et donc, je pense que sur les dépenses contraintes, on paye et on recommande des choses qui n'existent pas. Chacun a une certaine autonomie. La consommation d'électricité, elle varie d'un individu à l'autre, elle varie d'un comportement à l'autre. Et donc, cette idée qu'il y a des dépenses contraintes, ça me paraît une idée, alors ça fait la une des journaux, mais c'est une forme de victimisation, alors que je pense que le véritable enjeu, c'est la liberté qui est laissée au consommateur et l'évolution de son pouvoir d'achat, l'évolution globale de son pouvoir d'achat. C'est pas ce qui reste après avoir payé ça, c'est l'évolution globale de son pouvoir d'achat et la liberté qu'il a. Écoutez, il y a des gens en ce moment qui se chauffent toujours pas. Donc, ils ont pas voilà, j'en connais un très bien, c'est moi. J'ai pas allumé le chauffage chez moi, parce que moi, chez moi, j'ai un pull. Donc, j'ai pas de défense contrainte sur le chauffage.
On peut rester maître de ses dépenses.
Il faut être maître de ses dépenses.
Je sais pas si ce sujet vous appelle une réaction chez vous. Non, bon.
Moi, j'ai deux remarques. D'abord, il y a toute une série de domaines dans lesquels on peut pas faire autrement que passer par des dépenses contraintes. Hein. Votre opérateur télécom, et je dis pas ça pour rien, hein, parce qu'ils sont en train d'exploser les prix. Bon, et je veux dire, on les paierait tous les mois, et ils vous diraient attention, le mois prochain, ça va, peut-être que ça serait différent ou qu'ils exploseraient pas les prix comme ils sont en train de le faire. Vous voyez, là, je viens de recevoir une notification que c'est pas un opérateur télécom, c'est une plateforme de, je ne veux pas donner son nom, mais m'explique que ça va passer de 4,50€ à 6,90€. Bon, c'est du contraint, ça aussi. Alors, il faut que je fasse tout un bazar pour dire non, maintenant, j'arrête. Bon. Donc, je veux dire, ça compte. Ça, c'est le premier point.
Si vous êtes
Et le dernier point, c'est que ces dépenses contraintes qui correspondent à souvent des consommations vraiment nécessaires. C'est vrai que c'est intéressant de voir que pour beaucoup de nos concitoyens, une fois les dépenses contraintes, c'est-à-dire les consommations nécessaires couvertes, il reste quasiment rien. Donc, certains, c'est pas négligeable.
Pour les
c'est
moins
pas négligeable
riches,
de discuter de ça.
Encore une fois, nécessaire, ça n'existe pas. Nécessaire, c'est totalement arbitraire, la définition.
Non, c'est pas totalement.
Non,
totalement.
Enfin, je rejoins tout à fait Benjamin Coria quand même sur le fait que quand on est dans des zones rurales, le fait d'avoir besoin de sa voiture pour aller travailler, ça fait partie des dépenses contraintes. Et il faut l'intégrer. Enfin, ce sont des réalités.
Il y a des entreprises qui font du covoiturage dans le village où j'ai ma maison. Mais, je peux vous dire que la moitié des gens partent en covoiturage. Et donc, il n'y a pas de dépenses contraintes sur l'accès à l'eau.
Ils font un voyage toutes les trois semaines.
Mais pas du tout tous les matins pour aller travailler à Bordeaux.
Non, mais en tout cas, vous avez raison de dire qu'il y a de la concurrence, de l'innovation et les dépenses contraintes, on peut les regarder aussi avec un œil créatif.
Oui. Et on peut même avoir un débat sur les dépenses. Enfin, 1095 en moyenne par mois. Pour ceux qui sont les plus riches, on était à 1210 par là en moyenne par mois. Et puis pour les plus bas revenus, on est quand même à 1017. Donc on est quand même là sur un montant important. Oui. Alors il y a sûrement des arbitrages possibles. Mais il y a sûrement des gens qui les font.
Sinon, c'est l'Union soviétique. C'est tu te consacreras tant à acheter
Partagez-vous l'enthousiasme de monsieur Vincent Juvin, qui est le stratégiste de JP Morgan et qui explique aujourd'hui dans un entretien à l'Opinion que la France sera le moteur économique de l'Europe. Il dit la croissance des. Alors, c'est du très long terme, ce sont des perspectives 10-15 ans. Croissance 10-15 ans, je donne juste les éléments, Léonidas. 1,1% pour l'Europe, 1,5% pour la France, 0,8% pour l'Allemagne. Pourquoi la France sera le moteur de l'Europe? Parce qu'elle a une démographie plus dynamique que les autres, parce qu'elle a une productivité horaire supérieure. Et les Français, en fait, produisent, il écrit, les Français produisent plus en 35 heures que les Britanniques en 40 heures. Voilà. Et donc, il est sur l'idée qu'on aura qu'on a de beaux jours devant nous. Vous êtes d'accord avec
ça? Je suis totalement d'accord. Je sais que je suis extrêmement isolé. Je suis donc très heureux d'avoir un allié que je ne connais pas, à être d'un optimisme absolument jugé béat par certains, mais très réaliste, me semble-t-il, sur le fait que nous avons un pays doté d'une énergie entrepreneuriale sans équivalent, que vous recevez ici régulièrement Moussa Camara, qui entraîne, il ne sait plus quoi faire, de tous ceux qui viennent le voir avec des projets d'entreprise. De partout sur le territoire. Il est d'ailleurs en train aujourd'hui d'aller les chercher en zone rurale et il en trouve encore plus en zone rurale qu'il en trouvait dans les banlieues. Il y a ce que fait Gilles Attaf avec Origine France Garantie. On voit un talent industriel absolument extraordinaire. Je vous le dis avec modestie, ce que je découvre sur la plateforme Entrepreneurs pour la République tous les jours avec des industries innovantes, c'est absolument extraordinaire. Je tiens d'ailleurs à souligner...
C'est un peu de temps pour mes deux camarades.
Même pas 15 secondes.
2 minutes 10.
Même pas qu'à seconde, pour dire que ce qui est jugé par certains comme un grand désordre national a son pendant extrêmement positif, qui est une capacité d'innovation d'énergie, qui est un souffle qu'il est temps de regarder. Il y a la face négative, beaucoup de désordre peut-être, la face positive, une créativité sans équivalent. Heureusement qu'il y a des gens à l'extérieur du pays et l'Hexagone pour le voir.
Moins de 2 minutes, Benjamin Coria, la France, moteur économique de l'Europe des 10 à 15 ans qui viennent.
Oui, non, moi je vais aller très vite. Je pense que les économistes, en particulier les prévisionnistes, devraient apprendre davantage des météorologistes. C'est-à-dire que eux sont venus maintenant, à un peu de modestie, expliquent qu'à 48 heures, ils voient à peu près, et qu'au-delà, c'est vraiment pas sûr. Et ils associent une probabilité, même sur les 48 heures, de ce qu'ils énoncent. Moi, je suis stupéfait, ça fait quand même un moment que je fais de l'économie, je suis stupéfait de voir à quel point on n'a pas cessé de se tromper sur les grandes prévisions de long terme. Je me souviens d'avoir, puisque je travaillais là-dessus, sur les problèmes d'automatisation, dans les années 80, on disait, en 2000, le parc de machines-outils à commande numérique, ça sera 92% des machines-outils installées. Je crois qu'on est à 12 ou 13%. Bon. Donc je veux dire, un peu de modestie.
Jean-Marc, par rapport à ça.
Oui, deux remarques. Moi, je vais remonter encore plus tôt. Dans les années 1970, l'Hudson Institute avait annoncé qu'en l'an 2000, la France aurait un PIB par habitant qui serait le plus important du monde, qui serait devant celui du Japon et des États-Unis. Ça s'est pas réalisé. Et la deuxième remarque que je ferai, c'est que quand David Hume, qui avait été ambassadeur, David Hume, c'est un philosophe du 18e siècle, qui avait été ambassadeur du Royaume-Uni en France, il disait, en fait, un pays se réalise dans l'adversité. La Grande-Bretagne s'est réalisée dans l'adversité contre la nature. Il pleut tout le temps. La France se réalise dans une adversité contre l'État. L'État n'arrête pas d'embêter la France. Et il disait, la nature sait s'arrêter. L'État n'a aucune limite dans sa cupidité. Moi, je pense que le vrai problème, c'est la cupidité de l'État.
Moi, je voudrais juste dire, justifier mon enthousiasme, que pour ce qui est des prévisionnistes, je plaide ici, et Nicolas m'en est témoin, sur la dynamique entrepreneuriale de notre pays. On a dépassé le million de créations d'entreprises en France. Il n'y a pas de pays qui produise autant d'entrepreneurs que la France. Et ça, c'est une bonne raison d'aller dans le sens de l'optimisme.
Benjamin Coria, Jean-Marc Daniel, Leonidas Kalogiropoulos. Rendez-vous demain 9h.